Vileos, l'audioguide MP3 gratuit.
Quand David peint le serment des Horaces, il choisit d'illustrer un épisode légendaire de l'histoire romaine. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une guerre féroce oppose les cités de Rome et Albe. Pour éviter de s'épuiser mutuellement dans un conflit sans fin, les deux cités décident de remettre leur sort dans les mains de champions qu'elles désignent pour les représenter. De leur combat dépendra l'issue de la guerre. Côté romain, ce sont les frères Horace qui sont choisis, alors qu'à Albe, ce sont les frères Curias. Mais le sort est cruel. Sabine, native d'Albe, est mariée à un Horace, et Camille, sœur d'un Horace, est mariée à un Curias. Le combat s'engage et semble tourner à l'avantage des Curias. Ils sont tous les trois blessés, mais deux Horaces sont morts. Le dernier fait semblant de fuir. Ses ennemis le poursuivent, mais à une vitesse inégale selon la gravité de leurs blessures. Le dernier Horace profite alors du fait qu'ils sont séparés pour les tuer chacun à leur tour. À son retour, le vainqueur est maudit par sa sœur Camilla, ivre de douleur d'avoir perdu son époux. Excédé, il la tue. Corneille tirera de ces événements une célèbre pièce. De cette histoire dramatique, établissant la primauté de l'intérêt public sur l'intérêt privé, David souhaite exalter le don de soi, l'engagement pour la patrie, et surtout, restaurer la peinture. En effet, les sujets légers et frivoles, où la mythologie est prétexte à la nudité féminine, sont à l'époque nombreux. David est persuadé qu'il faut se remettre à l'école de l'Antiquité pour travailler à l'édification du spectateur. Il sera le chef de file de ce mouvement néoclassique. Inspiré par l'histoire des Horaces, il invente et représente un épisode de son cru, un serment par lequel les trois frères jurent devant leur père d'établir la suprématie de Rome. La scène se déroule dans la cour intérieure d'allée d'une villa de patriciens romains. Le fond obscur attire notre attention sur le premier plan, où trois frères à l'unisson tendent solennellement la main vers leur père qui leur fait prêter serment en tenant leurs épées de la main gauche. À droite, contrastant avec l'unité et l'allure décidée du trio, un groupe de femmes alanguies, effondrées, accablées de douleur et de chagrin. Il s'agit de Camille et Sabine et d'une mère protégeant ses deux enfants. Si une très forte émotion se dégage de cette œuvre, ce n'est pas uniquement dû au contexte, mais aussi à un savant arrangement géométrique. En effet, la composition du tableau repose sur une subtile utilisation de la ligne droite et, dans une moindre mesure, des courbes. La ligne droite, qui évoque la dureté, la virilité et la résolution du groupe d'hommes, alors que les courbes suggèrent la souplesse, la tendresse, la maternité et la féminité. Le fort contraste qui se dégage entre les deux groupes est dû à la nature des figures géométriques utilisées. Les hommes s'inscrivent dans un carré parfait. À l'intérieur de celui-ci, des parallèles. Observez bien. La ligne dans le prolongement de la jambe arrière du premier Horace est parfaitement parallèle à la ligne des épées, qui est elle-même parallèle à la jambe gauche du père. De même, la jambe arrière du père est parallèle à la jambe avant du premier Horace, qui est elle-même parallèle à la lance qu'il tient. Si maintenant on considère les trois arcades, celles-ci définissent trois groupes, les trois frères, le père et les femmes. La main du père serrée sur les épées constitue le cœur du tableau. Il s'agit du point de fuite, c'est-à-dire le point vers lequel toutes les droites du tableau convergent. En effet, si on prolonge par des droites les épées, les lignes du dallage du sol partant vers l'arrière-plan, les bras tendus et l'axe du regard des trois Horaces, toutes se recoupent en un point, la main du père. Étudions maintenant la médiane du tableau, c'est-à-dire la ligne horizontale séparant la scène en son milieu. On réalise rapidement que les bras tendus des frères sont parallèles à cette ligne, ainsi que leur regard. La tête des hommes se situe au-dessus de cette médiane, alors que le groupe des femmes occupe la partie inférieure, leur donnant une moindre importance. Quant au père, son regard s'élève au-dessus des Horaces, symbolisant ainsi une relation directe avec le divin et surpassant l'amour paternel, un sacrifice total aux intérêts supérieurs de la cité, symbolisé par le faisceau d'épée. Lors de son séjour à Rome, David a été impressionné par la force des éclairages du Caravage. Il en reprend la technique en utilisant ici une lumière violente et contrastée qui donne une dimension théâtrale et quasi religieuse à la scène. Des couleurs chaudes, éclatantes se concentrent sur les hommes, renforçant leur importance, alors que des couleurs plus claires sont utilisées pour le groupe de femmes. Très bien accueilli au salon de 1785, ce tableau est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre du courant néoclassique. Paradoxalement, alors qu'il s'agissait d'une commande du roi Louis XVI, il deviendra un des symboles de la Révolution française par le sujet et les valeurs qu'il exalte. David deviendra ainsi l'un des principaux peintres de la Révolution puis de l'Empire, représentant avec un immense talent des moments capitaux de l'histoire de France.